Hashtag Connectons-nous, la chronique mensuelle dédiée à la médiation numérique dans l'Ain. Une émission proposée par le réseau Mennum 01 et animée par Stéphane Leprince de l'ADEA Formation.
Vous êtes bien, vous êtes sur les bonnes ondes, celle de 90 FM, celle de Radio B. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Connectons-nous, l'émission qui explore les usages du numérique, les initiatives locales et les transformations qui traversent notre quotidien. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'accès aux droits, de solidarité locale, de démarches administratives, mais aussi de numérique très concret, pas le numérique gadget, pas le numérique qui est waouh, qui brille juste pour faire moderne, le numérique qui permet d'aider une personne à retrouver un document important, à garder une trace de ses démarches, à préparer aussi un rendez-vous et parfois à ne pas renoncer à un droit. Alors pour cela, nous allons partir d'un acteur que tout le monde connaît peut-être de nom, mais pas forcément dans le détail, le CCAS, le Centre Communal d'Action Sociale. Alors quel est son rôle? Qui accompagne-t-il? Pourquoi est-il au cœur de l'expérimentation qui s'appelle Territoire Zéro Non-Recours à Bourg-en-Bresse? Et pour ce projet, eh bien aujourd'hui, un projet qui s'appelle le Coffre-fort numérique Reconnect, qui est déployé avec l'appui de l'ADEA et des professionnels formés localement. Alors pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Karine Thévenat, qui est directrice du CCAS de Bourg-en-Bresse. Bonjour Karine.
Bonjour Stéphane.
Alors merci d'être avec nous. On va prendre le temps d'expliquer tout cela simplement parce que derrière les sigles et les outils, c'est surtout des habitants, des droits, des documents et parfois des parcours administratifs qui ressemblent un peu à une sorte d'escape game sans la musique d'ambiance. Donc un peu compliqué tout ça. Alors Karine, on commence par la base. Alors beaucoup d'auditeurs ont sûrement entendu parler du sigle CCAS, mais ne savent pas toujours précisément ce qu'il veut dire. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce qu'est un CCAS et à quoi il sert dans une ville comme Bourg-en-Bresse?
Bien sûr, donc le CCAS, comme tu l'as dit, le Centre Communal d'Action Sociale, en fait c'est un service public de la commune. Il aide les habitants à accéder à leurs droits, à trouver des solutions lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Il est en lien avec l'ensemble des institutions et des acteurs du territoire, notamment tous ceux qui travaillent dans le domaine de la solidarité. Donc en fait, concrètement au quotidien, le CCAS accueille les personnes, il les écoute et en fonction de leur situation, soit il va les recevoir en rendez-vous pour apporter une aide concrète. Je prends un exemple, ça peut être quelqu'un qui a besoin de se déplacer en bus sur la commune et on peut lui apporter une aide financière pour payer son abonnement. Ou quelqu'un qui a besoin de faire une démarche pour faire valoir un droit. Et là, on a des professionnels qui peuvent recevoir et accompagner les habitants. Nous, on a une équipe qui est composée à la fois d'agents administratifs et de travailleurs sociaux. Donc, on est vraiment là pour écouter les habitants et les aider.
D'accord, donc un CCAS, c'est pas seulement un guichet administratif, c'est aussi justement, comme tu l'expliques, un lieu d'écoute et de coordination, une porte d'entrée vers les bons interlocuteurs. Est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples très concrets de situations dans lesquelles un habitant peut pousser la porte du CCAS? Tu en as donné quelques-uns, peut-être d'autres?
Oui, alors ce que je disais, au quotidien, on a des habitants qui passent la porte. Principalement pour dire je veux voir une assistante sociale, donc on fait en sorte aussi de pouvoir se coordonner avec les services du département qui ont aussi des travailleurs sociaux. Donc voilà ce que je disais tout à l'heure, en fonction de la situation on va pouvoir les recevoir. Parfois il y a une demande concrète d'aide financière et notamment sur les aides alimentaires. Et dans ces cas-là, effectivement, le CCAS reçoit, évalue la situation et soit peut délivrer une aide, soit en tous les cas réorienter vers un autre partenaire.
C'est bien clair. Alors venons-en maintenant au non-recours. Alors c'est une expression importante, mais pas toujours évidente. Quand on parle de non-recours, on parle de personnes qui pourraient bénéficier d'un droit, d'une aide ou d'un accompagnement, mais qui n'y accèdent pas. Parfois, juste parce qu'elles ne savent pas que ce droit existe. Parfois, parce que la démarche, elle est trop complexe, notamment avec les questions de numérique qui peuvent se rajouter par-dessus pour quelqu'un qui est en difficulté avec ce monde numérique. Parfois, parce qu'elles ont perdu un document, qu'elles ne maîtrisent pas bien la langue française, ou qu'elles se retrouvent même seules face à une procédure complexe. Karine, concrètement, comment est-ce que ce non-recours se manifeste sur un territoire comme Bourg-en-Bresse ?
Alors la question du non-recours, c'est une thématique qui n'est pas toujours facile à aborder, puisqu'effectivement, quand on dit non-recours, ça veut dire que c'est des gens qui, comme tu l'as dit, qui ne bénéficient pas de leur aide, et du coup, ça peut être aussi un public du coup dont on dit qu'il est invisible, parce qu'en fait, on ne le connaît pas. Et concrètement, effectivement, on a des habitants, tout simplement déjà, qui ne connaissent pas les droits auxquels ils peuvent prétendre. Tu l'as dit, il y a des habitants qui renoncent à des droits parce qu'en fait, les démarches leur paraissent vraiment difficiles. On a aussi des gens qui n'osent pas demander, qui ont peur, qui ont aussi peur d'être montrés du doigt, tout simplement. Et ça va avec la connaissance des droits, mais des gens qui ne savent pas du tout où s'adresser. Et bien souvent, le non-recours au droit est aussi lié à une fragilité, à une autre fragilité. Soit la personne ne maîtrise pas forcément bien le français, soit sa situation personnelle est fragile. Par exemple, je pense aux sans domicile fixe. Qui pour le coup n'ont pas de domicile fixe pour recevoir leur courrier et ou pour stocker des documents. Toutes ces difficultés-là peuvent rajouter effectivement sur l'accès au droit.
Ok, alors ce que tu décris, on le voit aussi très souvent en médiation numérique, hein, quand on accompagne des personnes en difficulté avec des smartphones, avec un ordinateur, enfin tous ces accès numériques. Le problème, c'est pas simplement d'avoir l'appareil, le téléphone, l'ordinateur. Le vrai sujet, c'est de comprendre la démarche, retrouver les bons justificatifs, savoir à qui les transmettre et ne pas abandonner quand le site demande encore une fois un mot de passe oublié. Et le mot de passe oublié, c'est un petit chef-d'œuvre national de découragement. Alors Bourg-en-Bresse a été retenu dans le cadre d'une expérimentation nationale qui s'appelle Territoire Zéro Non-Recours, justement, souvent abrégé TZNR, il faut arriver à le placer, je commence à arriver à le placer, TZNR. Le nom est ambitieux et c'est plutôt une bonne chose. L'idée n'est pas de dire que tout sera réglé d'un coup, mais d'expérimenter des méthodes pour mieux repérer, informer et accompagner les personnes, justement, pour cette histoire d'accès et de non-droit. Donc pourquoi Bourg-en-Bresse a-t-elle été retenue dans cette expérimentation ? Parce que c'est pas, on disait que c'est une expérimentation nationale, mais tout le monde, tous les territoires n'ont pas été retenus. Et quel rôle joue le CCAS dans ce projet ?
Effectivement, l'appel à projet, il date de 2023. Il y a eu une soixantaine de territoires qui ont déposé un projet et 39 territoires ont été retenus. Donc la ville de Bourg-en-Bresse a eu la chance d'être retenue pour cette expérimentation. En fait, sur le territoire de la commune, on travaille sur la thématique de l'accès au droit depuis de nombreuses années, notamment avec la CAF, le département et la mission locale jeune. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'on avait fait en 2018, déjà avec le soutien de la DEA, une étude sur la fracture numérique, puisqu'en 2018, les démarches en ligne prenaient une vitesse assez considérable. Et on avait souhaité effectivement pouvoir repérer les difficultés des publics face à cette nouvelle manière de faire les démarches administratives. Et à cette époque, on avait fait tout un plan d'action. Alors malheureusement, il y a eu la crise sanitaire qui nous a un peu stoppés dans notre élan. Et c'est vrai que 2023, cet appel à projet, ça a vraiment été une opportunité pour nous de relancer le travail partenarial. On ne s'était pas forcément arrêté, mais en tous les cas, de le relancer d'une autre manière et de pouvoir engager d'autres institutions. Donc on a d'autres partenaires qui nous ont rejoints, hein, comme la CEPAM, la CARSAT, France Travail. Et plus largement, autant l'accès au droit, on travaillait entre institutions qui accompagnaient les publics. Et là, on est allé plus large en associant les centres sociaux, les associations caritatives, en tous les cas, tous les acteurs qui peuvent assurer un accompagnement des publics. On retravaille avec vous au niveau de la DEA. On parlera après du coffre-fort. Mais voilà, c'est... Je pense qu'on a été retenu justement parce que ça faisait de nombreuses années qu'on y travaillait et qu'on était dans une suite de tout ce qu'on pouvait travailler. Là, ça nous pousse à aller un petit peu plus loin que ce qu'on faisait avant, et notamment dans les démarches qu'on peut faire avec les habitants, d'aller faire de l'aller vers, de réfléchir à comment on communique, et puis aussi de proposer des outils aux habitants pour faciliter leurs démarches.
Oui, mais j'ai l'impression que c'est l'État qui vient appuyer des acteurs qui étaient déjà engagés, comme tu l'expliquais, et c'est un coup de pouce supplémentaire pour aller encore plus loin sur des actions. Donc TZNR, c'est pas simplement un nouveau sigle dans le paysage, mais c'est vraiment une manière de renforcer un réseau déjà existant, comme tu l'expliquais, de mieux l'organiser, cet aller vers dont tu parlais, de construire des réponses plus pratiques pour les habitants. Alors dans la réponse de Bourg-en-Bresse à cette expérimentation, donc de nombreux acteurs impliqués, comme tu l'expliquais, et beaucoup d'actions, plusieurs actions, et parmi ces actions, il y a un outil numérique en lien vraiment avec ces difficultés et l'accès aux droits, notamment en ligne, le coffre-fort numérique Reconnect. Un coffre-fort numérique, dit comme ça, on pourrait imaginer un outil très technique, avec des protections techniques dans tous les sens. Oui, il y a des protections. Mais en fait, l'idée est plutôt simple, c'est permettre à une personne de conserver au même endroit des copies numériques de ses documents importants, de les partager, si elle le souhaite, avec des professionnels qui l'accompagnent, sans avoir de compétences très techniques, justement. Ça demande de savoir démarrer une application, en gros, sur un téléphone, donc quelque chose de plutôt simple techniquement. Alors pourquoi le choix s'est-il porté sur cette solution? En fait, il y a beaucoup de coffres forts qui existent. Hein. Là, sur l'action de Bourg-en-Bresse, TZNR, on est parti sur un outil qui s'appelle Reconnect. Qu'est-ce qui différencie cet outil d'une simple solution de stockage en ligne? Par exemple, les gens utilisent plutôt des outils comme Google Drive, par exemple, des solutions américaines, ou Microsoft 365. Alors pourquoi cet outil-là, Karine?
Alors, on a un groupe de travail qui a réfléchi, qui a regardé un petit peu toutes les solutions qui pouvaient être proposées. Et c'est vrai que Reconnect, là, ce qui nous a séduit dans cet outil-là, c'est que ça a été créé par une association. Il a vraiment été créé dans une démarche solidaire pour aider les personnes, effectivement, à conserver les documents importants. Et c'est un outil qui avait déjà été expérimenté dans d'autres territoires de l'expérimentation TZNR. On a été sensible aussi, en tous les cas, à l'utilisation simple, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui est très accessible, et surtout au fait qu'on peut ne pas avoir d'adresse mail, c'est pas une obligation, alors que dans beaucoup d'outils qu'on a étudiés, l'adresse mail était un élément obligatoire. Dans celui-ci, un numéro de téléphone suffit. Donc ça a vraiment été aussi un point important pour le choix de l'outil. L'outil propose aussi une traduction en plusieurs langues. Et je l'ai dit tout à l'heure, dans le non-recours au droit, il y a aussi toutes les difficultés liées à la maîtrise du français. Donc ça nous paraissait aussi important de pouvoir proposer ça. Et puis au-delà, c'est un outil qu'on peut utiliser sur tous les supports, hein, téléphone, ordinateur, tablette. Et ceci, et aussi, il respecte la protection des données. Les données sont protégées. C'est ce qu'on appelle un outil RGPD, hein, un outil qui répond au règlement général de la protection des données. Donc voilà, on a essayé de choisir un outil qui soit à la fois facile d'utilisation et à la fois, malgré tout, qui respecte toutes les normes possibles pour sécuriser les documents des habitants.
Moyens sécurisés, stockage en France, tout ça, tout ce qui est imposé par cette réglementation RGPD. Et effectivement, pour avoir participé à des expérimentations avec des habitants qui ont été organisées par le CCAS, justement, on s'aperçoit que pour des personnes en difficulté avec les démarches, utiliser le smartphone, c'est pas un souci. Après, c'est la barrière de la langue. Et c'est vrai que cet outil-là propose dès le démarrage de l'application des traductions dans une dizaine de langues parmi les plus populaires. Donc là, on s'aperçoit que les personnes vont pouvoir utiliser l'application dans ce qu'on a pu tester alors qu'elles ont des difficultés avec le français. Ok. Alors, concrètement, je suis habitant à Bourg. Comment je suis concerné par le coffre-fort? Comment ça se passe? Comment un professionnel accompagne une personne qui pourrait avoir besoin d'un coffre-fort? Comment ça va se passer? Qui peut créer un coffre? Et où est-ce qu'on peut être accompagné, Karine?
Alors, Déjà, peut-être pour préciser qu'on s'est donné une année pour tester l'outil Reconnect et que du coup, sur ce test d'une année, on a essayé de travailler avec des professionnels qui souhaitaient s'investir dans ce nouvel outil. Donc, on s'appuie sur un réseau de partenaires. Alors, soit on a des partenaires qui connaissent l'outil et qui sont juste là pour orienter le public vers les lieux où on peut créer des coffres-forts. On a des partenaires qui peuvent créer des coffres-forts pour leur propre public, donc j'expliquerai tout à l'heure, et on a surtout des lieux accessibles par les habitants pour aller créer un coffre-fort. Donc, généralement, dans les centres sociaux de la commune et même au niveau de la commune de Saint-Denis-les-Bourgs et de Perronnat, les habitants peuvent aller rencontrer un médiateur numérique et créer un coffre-fort. Peut-être préciser quand même que pour l'habitant, c'est complètement gratuit. Puisqu'en fait, il y a un outil derrière, donc il y a quand même un outil qui est payant, mais le CCS paye la licence pour l'ensemble des utilisateurs. Donc pour l'habitant, c'est effectivement gratuit. Donc la démarche, elle est assez simple, hein. Un rendez-vous avec un médiateur numérique qui va créer le compte avec la personne et qui va surtout l'accompagner à l'utilisation.
Ok. Alors, donc la DEA, elle intervient en appui autour de ce projet-là, formation, accompagnement. L'idée, c'est que les acteurs puissent se sentir aussi accompagnés pour ensuite s'occuper des habitants, leur créer des coffres. Pour la personne qui se retrouve à avoir un coffre, concrètement, il y a quoi dans un coffre-fort Reconnect ? C'est quoi qui est proposé aux personnes qui créeront leur compte avec cet outil-là ?
Alors, l'outil Reconnect, il permet de stocker, comme on l'a dit tout à l'heure, différents documents. Alors, la personne, elle va choisir en fait ce qu'elle souhaite alimenter dans son coffre-fort, puisque c'est elle qui va l'organiser, qui va créer ses dossiers. Donc, elle peut stocker tous les documents administratifs, mais elle peut aussi décider de déposer des photos, des PDF, etc. Donc, il y a à la fois l'aspect documents stockés et à la fois la gestion de ses contacts essentiels, notamment dans le cadre des démarches administratives. Elle va pouvoir effectivement enregistrer des contacts, les retrouver facilement pour appeler par exemple son médecin, l'assistante sociale, etc. Et puis, c'est quand même un outil qui permet aussi de partager avec le professionnel qui accompagne à la fois ses documents et à la fois les contacts. Donc, c'est vrai que c'est un outil qui nous paraît quand même important, notamment pour faciliter toutes les démarches administratives sur l'accès aux droits.
Oui, c'est ce qu'on a trouvé pour avoir participé au groupe de travail sur la recherche de l'outil. Ce qui nous emballait très rapidement, c'est la simplicité où le professionnel peut déposer en deux clics à partir de son ordinateur des documents sur le coffre de la personne qu'elle retrouve immédiatement sur son téléphone. Et pour la personne accompagnée, de laisser accès à ces documents pour que le professionnel, à partir de son ordinateur professionnel, récupère les documents de la personne. Alors tout ça, là encore, on est sur une forme de sécurité proposée dans cette solution. Il y a un principe de petit cadenas que la personne va activer sur son téléphone. Elle appuie en fait pour activer la mise à dispo des documents et elle réappuie sur ce cadenas pour empêcher la visibilité des documents, c'est ça ?
C'est ça. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet qui est pour nous très important, qui a pu faire débat d'ailleurs entre les partenaires sur un outil où il y a des documents partagés avec tout le monde. Et en fait, on insiste, et en tous les cas, ceux qui accompagnent le public et a créé leur coffre-fort insisteront beaucoup sur le fait que la personne choisit ce qu'elle souhaite partager avec qui, à quel moment. Donc c'est vrai que cette petite fonction cadenas, elle est hyper importante. C'est aussi comment on laisse l'habitant gérer son coffre-fort, ça lui appartient. Même si un professionnel a accompagné un habitant à créer son coffre-fort, si l'habitant ne souhaite pas partager le coffre-fort avec le professionnel, c'est son choix et effectivement, il faut qu'on le respecte. Donc c'est vrai que c'est le professionnel qui va créer le coffre-fort doit vraiment prendre le temps d'expliquer cette fonction parce que c'est vraiment pour nous le... Alors oui, bien sûr, il y a l'outil de stockage, mais l'outil de partage, c'est vraiment un des enjeux importants. Alors à la fois parce que ça va peut faciliter l'accompagnement des usagers qui vont partager des documents avec les professionnels. Mais c'est un sujet important au titre de la protection des données pour que l'habitant y comprenne qu'il a le droit aussi de ne pas partager. Le coffre-fort lui appartient, c'est vraiment un outil pour lui. Donc on a effectivement demandé aux professionnels de pouvoir peut-être tester sur une première utilisation, de stocker un document, de le scanner, de le stocker et puis de voir comment on a cette petite fonction cadenas.
Oui, c'est vraiment l'idée de responsabiliser. On retrouve ce principe aussi, par exemple, dans Mon Espace Santé, où en tant qu'utilisateur, eh bien, on va choisir de partager ou pas avec ses médecins les documents de type ordonnance ou radio. Ça en est sur un peu ces mêmes logiques. Alors, avant qu'on se fasse taper trop sur les doigts par Jimmy qui est à la réalisation une fois de plus, eh bien, on va être obligé de conclure rapidement, mais quand même, comme à chaque fois, eh bien, la petite question autour de l'intelligence artificielle. Karine, comment tu utilises toi l'IA? Est-ce que tu l'utilises à titre perso, à titre pro? Quel type d'outils tu utilises, si tu utilises?
Alors l'IA fait débat effectivement dans nos institutions. Au sein de la ville de Bourg, on a eu une sensibilisation à l'IA et avec les différents outils. Donc ça a été un moment très important. On va avoir une charte qui va un peu cadrer l'utilisation. Alors moi, je l'utilise, oui, au quotidien. Des fois, j'ai une animation à faire, je lui mets un peu ce que je veux faire et je lui demande de me proposer des idées. Mais aujourd'hui, pour moi, l'IA, c'est plutôt une aide, mais ça ne remplace pas effectivement ce qu'on peut faire. Alors dans le cadre de l'accès au droit, je ne l'utilise pas du tout. J'ai jamais d'ailleurs testé de lui poser une question sur telle situation, est-ce qu'il a des droits. Voilà, ça j'avoue que je ne l'ai jamais utilisé parce que c'est notre travail du quotidien et qu'on a les connaissances, mais peut-être à tester pour se rendre compte.
Et il y a un outil qui était sorti, qui n'est plus sorti, je ne sais pas où c'en est, qui s'appelait Albert, justement pour tout ce qui est démarche en ligne, qui est un outil de l'État. Ça ne te parle pas?
Alors non, il y a mes droits sociaux. Il y a plusieurs sites internet qui permettent effectivement d'aller mettre sa situation et de voir un peu les droits qui en ressortent. On a testé, c'est plutôt correct. Il n'y a pas de difficulté particulière, mais en fait, nos professionnels sont formés. Donc, c'est ce qui explique aussi qu'on n'utilise pas l'outil. Qu'on n'oriente peut-être pas le public sur cet outil-là, parce que pour nous, la relation humaine est importante. Et dans l'accueil des usagers qu'on fait, si on les réoriente sur un site internet, ce serait un peu dommage quand même.
Et à titre perso, tu es plutôt à soutenir l'IA française, le chat, ou tu es plutôt chez les Américains, tu utilises quoi comme IA?
Ah, je ne suis peut-être pas très bonne, mais j'utilise beaucoup de ChatGPT.
Comme une majorité de
Voilà,
de
mais
Français,
je pense
encore.
Que c'est plutôt par méconnaissance des outils existants. Voilà, je pense que c'est plutôt ça.
Ok, merci beaucoup. Alors on retiendra une idée simple, l'accès au droit ne se joue pas seulement dans les textes ou dans les formulaires, il se joue aussi dans la proximité, dans l'humain, comme tu viens de le dire, la coordination des acteurs, l'accompagnement, et parfois les outils numériques bien pensés lorsqu'ils sont mis au service des habitants, eh bien, peuvent faciliter tout ça. Eh bien, merci à Jimmy pour la réalisation et sa patience pour cette nouvelle émission de Connectons-nous. Merci à vous tous, auditrices, auditeurs, pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt sur Radio B. D'ici là, prenez soin de vous, restez connectés, mais surtout, restez bien accompagnés.
C'était Hashtag Connectons-nous, une émission du réseau MENNUM01, animée par l'ADEA Formation, avec le soutien du département et de la Caisse d'allocation familiale de l'Ain. Retrouvez-nous en podcast sur les sites de Radio B et de MENNUM01.